88.4.
Bonjour les auditeurs et les auditrices à l'écoute de Radio Galère sur 88.4 et comme chaque semaine, une heure en Palestine, animée aujourd'hui par BDS France Marseille. Alors cette émission, nous allons la commencer par une information, ensuite nous parlerons de BDS à travers un article un peu ancien de Leïla Chaïd, autour de Leïla Chaïd, et puis sur les actions de la campagne BDS, ses victoires récentes, un petit point juridique, et ensuite nous continuerons avec une information sur les enfants palestiniens victimes du colonialisme et de l'apartheid israélien, et nous terminerons par une petite rubrique un peu plus culturelle sur ce que nous avons vu et lu, en espérant que ça vous donne envie de voir et de lire à la suite de cette information. Voilà, tout de suite un rappel. Depuis plus d'un an, l'armée israélienne et ses snipers tirent à balles réelles ou à balles à grande vitesse ou à balles explosives sur des civils palestiniens désarmés. Et plusieurs centaines de personnes ont été, plusieurs milliers de personnes même, plus de 10 000 personnes ont été blessées, et parmi elles, plus d'une centaine ont été amputées des membres inférieurs. Cet été, nos amis de Martigues, le collectif Palestine Martigues, reçoit plusieurs équipes de football et en particulier une équipe d'amputés de la bande de Gaza. Ils vont venir avec des accompagnateurs, il y a 7 joueurs, plus les remplaçants, et ils vont rencontrer dans plusieurs matchs l'équipe de France d'amputés. Et pour cela, il faut un soutien financier. Vous imaginez qu'il y aura peut-être quelques subventions, la mairie de Martigues met à disposition un certain nombre de matériels, mais tout cela coûte cher. Et quand il s'agit de la Palestine, eh bien, ce sont souvent les soutiens de la Palestine qui financent. Alors, nous vous appelons, avec toutes les organisations marseillaises de soutien à la Palestine, à aider à la réalisation de ce beau projet en envoyant un chèque à l'ordre de Martigues Palestine, à l'adresse Martigues Palestine, Maison de la Vie Associative, quai Lucien Toulmont, 13 500 Martigues. Donc le chèque à l'ordre de Martigues Palestine, et l'adresse c'est Martigues Palestine, Maison de la Vie Associative, quai Lucien Toulmont, 13 500 Martigues. Vous pouvez aussi verser directement sur Hello Asso, en tapant Hello Asso par exemple, Solidarité, Sport et Handicap, et en ajoutant Martigues, et vous tomberez sur la page sur laquelle vous pouvez verser directement. Voilà, revenons donc, on rappellera peut-être tout à l'heure l'adresse. Comme annoncé, donc, nous allons revenir sur un article qui a été publié dans l'Humanité, mais ça date de plus d'un an, du 22 mai, et c'est Pierre Barbancé qui a interviewé Leïla Chaïd, l'ancienne ambassadrice de l'OLP en France et pour l'Union européenne. C'était à propos des massacres qui avaient eu lieu à Gaza, où plus de 60 Palestiniens avaient été abattus. Leïla Chahid dit « Je pense que ce qui s'est passé le 14 mai, la mort de 62 Palestiniens en 24 heures, a provoqué un changement fondamental dans les opinions publiques mondiales, y compris en Israël. Parce qu'il y a un nouveau contexte mondial, cela fait maintenant plus de 3 ans qu'on nous dit que la question palestinienne n'est plus prioritaire, qu'on s'occupe de l'Iran et du terrorisme. Trump et Netanyahou avaient réussi à assimiler les Palestiniens à tout moment, à tout ce mouvement de terrorisme international. C'est pour cela qu'il tient absolument à dire que les marches à Gaza sont organisées par le Hamas, ce dernier étant en mouvement se revendiquant de l'islamisme. Ils mettent tout dans le même sens. Mais les moyens de communication existants permettent aux gens de se faire leur propre opinion. Ils ont vu en live l'assassinat de 62 personnes, les tirs à balles réelles sur des journalistes, les secouristes, les familles qui ont blessé à un jour 2700 personnes. Depuis le 30 mars, il y a 12 000 blessés, dont certains seront handicapés à vie à cause de l'utilisation de balles explosives. Or, les jeunes à Gaza n'ont pas eu recours aux armes alors qu'ils le pouvaient. Les jeunes ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils ont une nouvelle stratégie, parce que des roquettes stupides du Hamas sur Sderot donnaient des justifications aux Israéliens pour bombarder Gaza. Il y a des moments dans l'histoire où s'exprime le courage des peuples, leur détermination à se sacrifier, parce qu'ils n'ont rien d'autre par la force de leurs convictions. Ce peuple a voulu forger son propre destin avant même la création de l'État d'Israël en luttant contre la colonisation britannique. Mais il faut aussi voir au moment où Trump et Netanyahou, frères jumeaux racistes et populistes, cherchent la guerre, que pour la première fois en 70 ans, vous avez des pays arabes avec les Américains et avec les Israéliens contre les Palestiniens. À commencer par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui considèrent aujourd'hui que leur premier ennemi c'est l'Iran et donc que leurs premiers alliés sont Trump et Netanyahou. Comme l'a dit le prince héritier saoudien, vous savez, celui qui a fait découper en morceaux le journaliste Khashoggi, Mohamed Ben Salman, donc, lors d'une réunion avec un groupe sioniste aux États-Unis, lors de son voyage officiel il y a un mois. Donc c'était en avril 2018. Les Palestiniens devraient se taire, exactement, shut their mouth, et accepter la grande proposition de Trump. Or, il n'y a pas de proposition, mais une décision unilatérale d'imposer aux Palestiniens, avec l'aide de certains pays arabes, des bantoustans séparés par cette nouvelle Jérusalem métropolitaine qui va être 10 fois plus grande que celle d'aujourd'hui. Toutes les colonies aux alentours seront annexées à Jérusalem. Et comme c'est la capitale reconnue par Washington, le gouvernement israélien va essayer de toutes les manières, économiques, sociales, physiques, d'expulser les Palestiniens et d'intégrer les 250 000 colons qui sont à Jérusalem-Est pour poursuivre ce qu'il appelle sa guerre démographique. Jérusalem va atteindre à l'est Jéricho, au nord Ramallah et au sud Bethléem. Ce n'est pas un incident, c'est un moment clé. Ceux qui l'ont compris sont ces magnifiques jeunes de Gaza, dont le plus vieux a 30 ans, qui n'ont rien demandé à personne, ni au Hamas, ni au Fatah, ni aux Arabes, ni aux Américains, ni aux Européens. Ils ont secoué la conscience du monde en se sacrifiant parce que c'est leur seule arme. Alors le journaliste pose la question à Leïla Chahid, faut-il sanctionner et boycotter Israël? Et voilà la réponse. Pourquoi la Russie est-elle sanctionnée lorsqu'elle annexe la Crimée, mais pas Israël qui annexe Jérusalem? Pourquoi les boycottages contre Cuba, la Libye, le Congo, contre l'apartheid et pas contre Israël? Le mouvement boycott des investissements sanctions, BDS, ne doit pas être simplement le fait de citoyens courageux dans le monde. Il doit être appliqué aussi par les États. C'est une arme non violente. Nous ne demandons pas que vous bombardiez Israël. Nous exigeons que vous appliquiez ce que le droit impose. Des sanctions économiques, politiques, diplomatiques et le boycott de tout ce qui a à voir de près ou de loin avec cette politique d'occupation et ces crimes de guerre. Que les parlements des 28 États de l'Union européenne votent des résolutions pour le boycott comme forme de pression non violente sur Israël. En premier lieu, il faut la suppression de la saison France-Israël, qui a eu lieu en 2018 et qui a été un formidable échec, ça c'est moi qui le rajoute, qui n'est là que pour redorer le blason de la force occupante. N'est-ce pas une honte qu'on fasse la propagande d'un pays l'année des 70 ans de la Nakba, de la dépossession des Palestiniens? Voyez comment l'histoire est faite. Les jeunes de Gaza se sont invités à la table sans qu'on les y ait conviés. Et c'est ça qui compte. Les autorités en France peuvent faire autant de manifestations qu'elles veulent. Cela n'occultera pas la politique d'occupation criminelle israélienne qui est pratiquée à l'égard du peuple palestinien depuis 51 ans et celle de la dépossession de la Palestine depuis 70 ans. Donc cette interview est particulièrement en lien avec à la fois la venue des jeunes Palestiniens amputés qui ont fait un sacrifice énorme, comme tout plus de 300 qui sont morts tombés sous les balles de ces snipers, mais est aussi en lien avec la campagne BDS, la campagne internationale lancée par les Palestiniens, et puis une nouvelle campagne qui vient d'être lancée et qui s'adresse à l'entreprise Puma, les fabricants de maillots, de chaussures de sport, qui sont aussi les sponsors de l'OM cette année. Et une campagne internationale est lancée avec une action internationale qui aura lieu les 14 et 15 juin, le 15 juin, pour de nombreux pays d'Europe, mais pas qu'en Europe. Un courrier a été envoyé par la campagne BDS France à la direction de Puma, et qui dit ceci: votre entreprise sponsorise l'association israélienne de football, Israelian Football Association. Or, au moins 6 colonies israéliennes de Cisjordanie, territoire palestinien occupé, ont été des clubs affiliés à l'IFA. Donc, selon un rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch. Le responsable de l'équipe Apoel Oranit, située dans la colonie israélienne illégale Oranit, a notamment déclaré: les résidents d'Oranit ne sont pas des citoyens de seconde zone, ce temps est écoulé, nous sommes sur la carte. Ces propos illustrent parfaitement la manière dont l'affiliation à l'IFA a officialisé le statut des colonies en Israël et a contribué ainsi à l'ensemble du projet de colonisation. La colonisation israélienne est illégale selon le droit international. La 4e Convention de Genève interdit à toute puissance occupante de déplacer sa population en territoire occupé. Donc, en conclusion, je ne vous lis pas tout l'article. La conclusion est: il est donc éthiquement inacceptable que Puma continue à sponsoriser l'IFA. Nous vous prions de soumettre notre demande à tous les dirigeants internationaux de votre groupe dans le but de mettre fin au contrat de sponsoring de l'entreprise Puma avec l'association israélienne de football. Et que répond Puma? Qu'il respecte le droit international et qu'il n'y a rien d'illégal dans ce qui est fait. Donc, phase 2, après avoir négocié, discuté, eh bien, on va passer à l'information du public. Et donc, le 15 juin, action internationale pour dénoncer le double jeu de Puma et sa violation du droit international. Nous continuons avec un chapitre sur les victoires de BDS récemment, et en particulier, vous en avez entendu parler, autour de l'Eurovision. Même si personne n'est allé, n'a répondu à la demande de boycott lancé par les Palestiniens et repris un peu partout dans le monde, eh bien, je vais vous dire pourquoi l'Eurovision 2019 a été un véritable flop. D'abord, il y a eu une campagne internationale qui a forcé les autorités israéliennes à déplacer le concours à Tel Aviv, alors qu'initialement, ils avaient glorieusement annoncé que cela se ferait à Jérusalem. Donc, première victoire. Entre 5 000 et 10 000 touristes uniquement, alors que 90 000 s'étaient rendus à Lisbonne. Ça, c'est le gros flop économique. Plusieurs milliers de billets invendus. Plus de 150 000 personnes qui ont signé l'appel palestinien au boycott de l'Eurovision. En France, ce sont plus de 100 artistes engagés qui ont signé un appel pour appeler aussi au boycott de l'État de l'Eurovision en Israël. L'Islande a affirmé son soutien au peuple palestinien. Des centaines de manifestations et actions partout en Europe. De moins en moins d'artistes qui se produisent en Israël. La dernière qui est allée, c'est Madonna, qui pour $1 million a chanté 2 petites chansons, qui, d'après ceux qui ont regardé, a été son spectacle, son show, a été lamentable. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas regardé, j'ai boycotté. Et ce qui a surtout été une grande victoire pour BDS, c'est que toute la presse a parlé de la campagne BDS, qu'elle est tentée de taire jusqu'à présent, mais là, ils n'ont pas pu faire autrement. Il y avait déjà eu des actions en France lors des sélections, avec des drapeaux palestiniens, avec des militants parisiens qui étaient rentrés sur la scène. Mais là, ça a été à la fois les Islandais qui ont sorti le drapeau palestinien, et puis Madonna qui a cru faire repentance avec deux danseurs qui, à la fin, avaient le drapeau israélien, le drapeau palestinien. Nous considérons que Madonna a surtout voulu prendre $1 million et essayer de blanchir sa collaboration avec les autorités israéliennes pour deux petits drapeaux. Et d'ailleurs, on ne l'a pas beaucoup entendu, je crois, Madonna, lorsque l'une des deux, la danseuse qui portait le drapeau palestinien dans son dos, cette jeune femme s'appelle Mona Bernstein, elle est de nationalité norvégienne, originaire du Maroc, a subi un interrogatoire douteux à la sortie de l'aéroport. Elle dit que les heures qui ont suivi le spectacle ont été intenses, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé se sentir surveillée de la façon dont elle l'a été. Donc on a attendu longuement la réaction de Madonna après la façon dont sa danseuse a été maltraitée, mais elle n'est pas venue aux dernières nouvelles. Évidemment, l'organisation européenne Broadcasting Union, en charge de la diffusion de l'Eurovision, a condamné la présence de ce drapeau. Cet élément de la performance ne faisait pas partie des répétitions qui avaient été réglées avec le BU et avec le diffuseur hôte Cannes. Le concours Eurovision de la chanson n'est pas un événement politique et Madonna en avait été informée. Et bien évidemment, nous considérons que ces personnes-là n'auraient eu aucune crainte à aller chanter sous l'apartheid sud-africain ou faire comme les nazis le faisaient, contribuer à redorer le prestige en allant chanter à Munich ou à Berlin à l'époque de l'Allemagne nazie. Surtout, ne faisons pas de politique et cautionnons tout ce qui se fait pour blanchir les crimes d'un État qui viole le droit international. Une dernière victoire de BDS, eh bien, c'est le retrait d'Alstom du projet de tramway de Jérusalem. Une victoire du droit et de la mobilisation de la société civile, dit le communiqué de presse qui est signé par l'Association France-Palestine Solidarité, la CFDT, la CGT, la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Association palestino-israélienne Al-Haq, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat Solidaire. Alors, c'est tout récent, ça date du 16 mai. À l'issue d'une intense campagne de mobilisation, nos organisations se félicitent aujourd'hui du retrait d'Alstom, de l'appel d'offres pour l'extension du réseau de tramway à Jérusalem-Est, outil de la politique de colonisation et d'annexion israélienne à Jérusalem. Après le retrait en juin de Sistra, filiale de la SNCF et de la RATP, nous demandons à la dernière entreprise française historiquement implantée dans le projet, c'est-à-dire la Caisse de dépôt et consignation via sa filiale Égis, donc là c'est directement l'État français, de s'en retirer pour ne pas se rendre complice de violations du droit international. Nous demandons à l'État de jouer son rôle au titre de ses responsabilités en matière de relations internationales comme investisseur. Et là, c'est la dernière campagne qu'il faut mener et soutenir, c'est d'exiger de l'État français qu'il se retire à travers la Caisse des dépôts et consignations et la filiale Égis de cet immonde projet qui viole le droit international. Je vais peut-être vous parler maintenant d'un article qui, sur les blogs de Mediapart, le rappel de l'article d'un magistrat français, Ghislain Poissonnier, pardon, qu'il m'excuse de déformer son nom, qui s'appelle « L'appel au boycott des produits israéliens est-il légal en France ?» Vous le savez, il y a eu il y a quelques années, en 2000, je ne sais plus la date exacte sur l'eau, 2015 me semble-t-il, une décision de la Cour de cassation qui a estimé que le boycott, alors ça nous est présenté comme ça essentiellement par les sionistes ou par ceux qui se laissent influencer par leurs propos, le CRIF, la LICRA et autres organismes, ont tendance à dire que le boycott est illégal. Or, la date était octobre 2015 précisément. La jurisprudence de la Cour de cassation, nous dit ce magistrat, n'interdit pas l'appel au boycott de l'État israélien, de ses institutions publiques, notamment ses universités, de ses événements, les festivals culturels, performances artistiques, conférences scientifiques, rencontres sportives, etc., etc., et des organismes qui soutiennent la politique du gouvernement israélien, syndicats, ordres professionnels, associations. L'appel au boycott de différentes toute forme de coopération institutionnelle avec Israël reste possible. De même, s'agissant des produits israéliens, il est possible d'appeler au boycott de produits spécifiques, par exemple ceux fabriqués dans les colonies israéliennes de Cisjordanie ou ceux fabriqués par des sociétés israéliennes ayant des liens particuliers avec des industries d'armement ou des liens avec, avec les colonies. La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation interdit par contre l'appel au boycott d'un produit en raison de la nationalité de ses producteurs. Donc, nous faisons et nous allons continuer à faire un appel au boycott d'un État qui viole le droit international depuis sa création, qui commet des crimes de guerre, qui ne respecte pas les conventions de Genève, la Charte des Nations Unies. Et nous allons même intensifier à travers des campagnes qui ne vont pas viser des producteurs israéliens, puisque l'entreprise Puma n'est pas israélienne, et de même l'entreprise AXA, qui à travers ses filiales aujourd'hui travaille avec Elbit, fabricant d'engins de mort. Nous allons intensifier ces campagnes et nous ne sommes pas prêts d'arrêter et nous espérons que vous allez être nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Nous allons maintenant faire une toute petite pause musicale et nous parlerons ensuite de la situation des enfants palestiniens.
كنا والهوى حلو الغوى نتشاكى في حنين حبنا دمعنا الليل على بوح طوى كل ما في قلبنا كلما الفجر بدا واذكري الايام ليلى السهر واذكريني كلما الطير شدا وحكى لي الاب ضوء القمر
اذكريني واذكري عهد الغدا
اذكري
Radio Galère, vous êtes à l'écoute d'une heure en Palestine, animée aujourd'hui par BDS Marseille. Nous sommes donc devant un article qui a été repris sur le blog de Mediapart, sur un blog de Mediapart, mais qui est à l'origine publié par l'ONG Defense for Children International Palestine, DCIP, qui tire le sombre bilan de 2018. Les enfants palestiniens, 56 en 2018, soit un par semaine au moins, ont été tués par des tireurs d'élite, des drones ou des forces de sécurité de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés. 5 des enfants assassinés avaient moins de 12 ans. À Gaza, 49 enfants ont été assassinés par Israël dans le cadre des manifestations de la Grande Marche du Retour. 73% des décès sont dus à des tirs à balles réelles utilisés par les snipers de l'armée israélienne. J'aurais dû ajouter, ce n'est pas DCIP qui l'écrit, je devrais ajouter les lâches snipers, car qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être caché derrière des murs de sable à plus de 200 voire 300 mètres et tiré avec des balles réelles sur des enfants, des femmes, des handicapés, des infirmiers, infirmières ou des journalistes. L'ONG a également enregistré 140 cas d'enfants palestiniens détenus par les forces palestiniennes, qui, dans ce cas, se comportent comme des supplétifs des autorités israéliennes. Les forces israéliennes ont également arrêté 120 enfants en Cisjordanie occupée. Dans les deux groupes, les enfants détenus ont subi des violences de la part des forces de sécurité qui les détiennent, qu'il s'agisse de l'autorité palestinienne ou de l'armée israélienne. Ces tactiques montrent que la collaboration coloniale entre Israël et l'autorité palestinienne vise un segment très vulnérable de la société palestinienne. De plus, le meurtre et les blessures d'enfants par des tireurs d'élite israéliens lors de la Grande Marche du Retour traduisent une volonté de mutilation directe de la génération capable de poursuivre la lutte anticoloniale. Les chercheurs de DCIP montrent qu'Israël a tué en moyenne plus d'un enfant par semaine en 2018. Selon des statistiques officielles alarmantes, entre 2000 et 2014, Israël a tué un enfant palestinien tous les 3 jours en moyenne pendant 14 ans. Et vous le voyez, ces assassinats s'accentuent en 2018. Tout au long de l'année, des discussions ont eu lieu au sujet de l'intention et des actes génocidaires d'Israël qui ont été en grande partie rejetés en raison du monopole de cet État, que cet État entend exercer à travers l'utilisation indécente de la Shoah. Pourtant, l'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide définit ce terme comme « des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Que fait d'autre l'État d'Israël au peuple palestinien, en tout ou en partie ? La honte pèse sur la communauté internationale, conclut l'auteur de cet article. Seule l'action civile de boycott économique, sportif, universitaire, culturel, massif, est susceptible d'influer sur le cours à venir de la vie des enfants palestiniens. Et je poursuis avec un article du journaliste Gideon Levy, publié dans le journal israélien Haaretz. Elle s'appelle Aïcha Al-Loulou. Il s'adresse à travers cet article au personnel de la COGAT. La COGAT, c'est la coordination des activités gouvernementales dans les territoires. Il dit « Le personnel de la COGAT n'a pas d'enfants. Il en va de même pour les membres du service de sécurité du Shin Bet. Des parents ne pourraient jamais faire ce qu'ils font aux enfants de Gaza et à leurs parents. Il y a du sang sur les mains des membres de la COGAT, du sang sur les mains des membres du Shin Bet, le sang des petits-enfants, la vengeance pour laquelle le poète a déjà écrit. Ils ne tirent pas sur les enfants, ils ne les exécutent pas, mais ce qu'ils font, ce qui entraîne parfois leur mort et leur cause toujours une agonie, ne sera jamais pardonné. Comment pouvez-vous dormir la nuit, chers gens du Kogat ou du Shin Bet ? Pensez-vous parfois à ce que vous faites aux enfants malades à Gaza? Imaginez-vous ce qui arriverait si quelqu'un faisait ça à vos petits? Leur avez-vous jamais parlé de votre travail? Je vais le faire. Vous avez provoqué la mort d'une fillette de Gaza âgée de 5 ans, seule, sans ses parents, sans aucun parent, ni personne qu'elle connaissait à ses côtés au dernier jour de ses derniers jours. Aïcha Loulou avait une tumeur au cerveau. Elle a été envoyée de Gaza dans un hôpital de Jérusalem-Est, un hôpital palestinien, accompagnée par un étranger, pour une opération chirurgicale compliquée et une chimiothérapie non disponible à Gaza à cause du blocus illégal. Et personne dans sa famille, y compris sa grand-mère âgée, n'a pu être avec elle. La bureaucratie de l'occupation l'a empêchée. La fillette a été envoyée à la porte de la mort, solitaire et effrayée. Elle est tombée dans le coma, enveloppée dans un drap jusqu'à sa mort. Les médecins qui l'ont traitée ont déclaré que le fait qu'elle soit seule avait contribué à son déclin rapide. Mais même cela ne suffisait pas pour les greffiers de l'occupation. Au lieu d'exprimer ses remords, le petit et méchant esprit, le bureau du porte-parole de la COGAT, a publié une déclaration non moins perverse que les événements qui ont précédé la déclaration. Toute responsabilité avec une revendication qui pourrait ni plus ni moins, qui ne pourrait être ni plus ni moins méprisable. Les parents ont signé une déclaration disant qu'ils ne voulaient pas quitter Gaza avec la fillette. Cette absence de sentiment est ainsi aggravée par le crime de diffamation. Les parents ne voulaient pas quitter Gaza avec leur fille. C'est ce que sont les parents à Gaza. Ils n'aiment pas leurs enfants et ne veulent pas être avec eux quand ils meurent. Wissam et Mouna, qui ont couru paniqués d'un médecin à l'autre lorsque la tumeur de leur fille a été diagnostiquée, ont été rendus fous par la pensée qu'ils envoyaient leur fille à une opération dans un lieu étranger, hostile. Ils ne voulaient pas partir ? Et le baratin d'habitude. En tant que politique, l'administration de la coordination de Gaza et de liaison exige que les parents accompagnent les mineurs de la Janus. Et maintenant, les faits. Les parents d'Aïcha ont fait ce que chaque parent enfermé dans une cage pourrait faire pour sauver la vie de leur fille et partir avec elle à l'hôpital à Jérusalem-Est, qui par ailleurs est également sous occupation. Le ministère palestinien des Affaires civiles, qui s'occupe des demandes de sortie, a des critères que les Israéliens dictent pour le dépôt de telles demandes. Là, le père a appris que, compte tenu de son jeune âge, sa vérification des antécédents prendrait 3 semaines. Quant à sa mère, elle n'est pas inscrite dans les registres de la population israélienne et n'a donc en aucune chance des possibilités de départ. La demande de la grand-mère, âgée de plus de 75 ans, des tantes et d'un oncle ont également été rejetées. Les parents ne pouvaient rien faire, mais signer un document imposé afin que leur fille puisse quitter la bande de Gaza et bénéficier du traitement, même sans sa famille. Médecins pour les droits de l'homme, une association israélienne, s'occupe actuellement de 4 autres cas dans lesquels le COGAT et le Shin Bet n'autorisent pas les parents à accompagner des enfants malades. Le premier, dans son cas le cas de A, elle est maman d'un garçon de 6 ans. Elle attend depuis 2 mois la permission de partir avec lui pour qu'il puisse se faire soigner en Jordanie. Un autre cas, une fillette de 4 ans, attend depuis presque 1 an un permis permettant à sa grand-mère de l'accompagner à la suite d'une opération à Jérusalem. Il est interdit à la grand-mère de partir pour des raisons de sécurité. Une grand-mère terroriste pour l'État d'Israël. Un autre enfant en bas âge, âgé de 3 ans, qui a avalé de l'acide, attend une opération en appelouse et a déjà manqué son rendez-vous. Un dernier cas, la mère d'un enfant de 4 ans atteint de leucémie qui subit une chimiothérapie en appelouse sans ses parents depuis 43 jours, a de nouveau eu son laissez-passer refusé. Le sang de ses enfants appelle, crie. Voilà un article de Gideon Levy, le correspondant de Haaretz. Et puis une dernière information, dans un village qui cette fois est dans le sud de l'État d'Israël et qui concerne la ville, le village ou la ville non reconnue de la communauté de Bédouins, où se trouvent 850 personnes qui ont la nationalité israélienne mais qui n'ont pas les mêmes droits que les autres Israéliens. Non seulement toute nouvelle construction est interdite, parce que là, la population est supposée ne pas croître, mais un terrain de jeu qui a été construit sans autorisation, puisque tout est interdit, va être démoli. Un ordre de dépollution a été publié dimanche dernier pour une aire de jeu pour enfants dans un village bédouin non reconnu du sud d'Israël, alors même que l'État n'a pas l'intention d'évacuer la communauté. Ce jardin d'enfants, ce terrain de jeu, a été installé par quelqu'un du village qui a fait un don à la communauté. Dans l'après-midi, raconte M. Odé Zanoun, qui est président du comité des résidents de Rakhma, dans l'après-midi, de l'après-midi jusqu'au soir, les enfants n'ont rien à faire. Ils restent à la maison. Ils leur ont donc fabriqué des poteaux et des balançoires, et même cela, ils veulent le démolir. L'administration des terres a déclaré « L'équipement du terrain de jeu a été construit sur des terres domaniales, confisquées aux Palestiniens, volées aux Palestiniens au passage, sans autorisation et sans coordination, et pire encore, sans certificat de sécurité et accompagné de travaux de construction illégaux supplémentaires. Il s'agit d'un risque d'intrusion et de danger pour la sécurité publique. » Bien évidemment, s'il n'y avait pas un apartheid en Israël, les Bédouins pourraient bénéficier des mêmes infrastructures que les populations israéliennes juives, ce qui permettrait de ne pas avoir des investissements personnels ou communautaires pour pallier aux défaillances d'un État qui est tout sauf démocratique et qui pratique l'apartheid. Donc, petit rappel, en 2009, dans ce même village, les autorités ont démoli une école maternelle pour ensuite en construire une autre à la suite d'une exigence du tribunal. Il n'y a pas d'institution éducative autre que les écoles maternelles et il n'y a pas de terrain de jeu ou de centre communautaire. Les enfants du village doivent parcourir de longues distances pour aller à l'école. Les données recueillies par le ministère de l'Éducation montrent un fossé d'accès à l'éducation entre les Bédouins et le grand public israélien. Alors, un mot sur les villages non reconnus. Eh bien, ce sont simplement des villages que les autorités israéliennes, après 70 ans de création, ne veulent pas accepter. Et en particulier pour les populations de Bédouins, elles sont soumises à une volonté de les sédentariser. Alors, ils ne sont pas sédentarisés, ils sont semi-nomades. Ils se déplacent avec leurs troupeaux lorsque les pâturages ne sont plus disponibles dans la région où ils vivent. Mais ils n'ont ni le droit de construire en dur, ni le droit de développer leur habitat et évidemment ne bénéficient pas de la qualité des infrastructures dont peuvent bénéficier les populations israéliennes de religion juive. Ça s'appelle l'apartheid. Mais il paraît qu'en France, il ne faut pas le dire. Donc nous allons continuer à le dire parce que c'est un fait et que cela a été reconnu par des rapports des Nations Unies, par des personnes qui connaissent bien mieux que nous ce qu'est l'apartheid puisqu'elles l'ont vécu. Je cite en particulier l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. Une nouvelle pause musicale et nous reviendrons pour parler de un peu de culture.
بنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسونا احبابنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسونا روحنا وراحوا عنا ما حد منا اتهنى روحنا وراحوا عنا ما حد منا اتهنى عيني يا عيني كل يوم يزيد شوقي إليهم روح يا ناس بالله يسلم عليهم نفسي أشوفهم مرة دي الفرجة صعبة مرة نفسي أشوفهم مرة دي الفرجة صعبة مرة عيني يا عيني عيني انا ما حد منا تهنى رحنا وراحوا انا ما حد منا تهنى عيني يا عيني عيني.
Alors, vous êtes maintenant et encore sur Radio Galère 88.4 à l'écoute de l'émission Une heure en Palestine, animée aujourd'hui par BDS Marseille. Il y a eu la semaine dernière, puisque nous allons parler de culture, il y a eu à Marseille la semaine dernière, exactement le 24 et le 25, donc vendredi et samedi, au théâtre du Gymnase, un magnifique spectacle mis en scène par David Ayala, qui s'appelait « Un autre jour viendra », un spectacle qui a été vu un peu partout en France et que nous avons eu le plaisir, vraiment le grand plaisir d'aller voir. David Ayala écrit à propos de ce texte, de ce spectacle, qui revient, qui met en valeur les textes de Mahmoud Darwish, le poète palestinien, le grand poète palestinien disparu. Certains textes sont récités, d'autres lus ou intégrés à la musique, précise David Ayala, qui a découvert Mahmoud Darwish il y a une quinzaine d'années. Mais j'avais mal mesuré l'ampleur de son œuvre. C'est un poète universel qui a transcendé les visions partisanes. Il a une telle grandeur d'âme face à la tragédie, ajoute-t-il, au sujet de celui qui a cumulé près de 30 ans d'exil depuis 1948, date de la création de l'État d'Israël. Je cite David Ayala, il fait toujours référence au paradis perdu. En parlant de la Palestine, il s'adresse à tous les exilés du monde. Il parle de la réconciliation par l'amour et a même eu une relation avec une Israélienne, Rita, qu'il a rencontrée lors d'un bal du Parti communiste israélien dont il a fait partie. Un autre jour viendra, avec des poèmes de Mahmoud Darwish, les gens ressentent l'endroit de la justice ou de l'injustice. Il fait écho de cette terre meurtrie, avec une telle dignité et hauteur de vue que ça le rend impressionnant, souligne David Ayala. Poème emblématique de Mahmoud Darwish, un autre jour viendra, est clairement une ode à la paix et à l'espoir, la vision et l'image qu'un autre jour meilleur viendra. Mais des espoirs qui peuvent être de nos jours douchés par, dit David Ayala, le gouvernement d'extrême droite aux commandes d'Israël. Leur politique d'apartheid est terrifiante, mais c'est souvent un grand tabou de s'y attaquer. Sinon, on est considéré comme antisémite, déplore le comédien et metteur en scène. Comment peut-on encore ne pas sanctionner Israël pour ses actions criminelles? Mais dès qu'on entre dans ces questions, les gens s'écharpent. Peut-être que le spectacle est une manière de dire tout cela, espère David Ayala. Alors, un très bel article dans la Marseillaise. Mais je dois dire que le spectacle en lui-même était aussi beau et peut-être même plus beau que cet article et que les déclarations de David Ayala, puisque on a pu y entendre 5 musiciens, une chanteuse lyrique, avec des chansons, une partition arabo-andalouse, des chansons, un chant grec ou encore des chants arméniens, et des comédiens comme Simon Abkarian, Cécile Garcia-Fogel et que les autres m'excuse de ne pas citer leur nom car je n'ai pas amené le programme, mais c'était vraiment un moment magnifique dans toute la douceur et en même temps la résistance de Mahmoud Darwish, tellement bien servi par ces magnifiques artistes et par la mise en scène de David Ayala. Donc merci à cette équipe et merci au Gymnase de nous avoir permis de profiter de ce beau spectacle. Et puis une autre bonne nouvelle récemment, c'est le prix du jury, le prix spécial du jury, qui a été décerné au réalisateur palestinien Elia Souleyman la semaine dernière, enfin à la fin du Festival de Cannes. Le cinéaste palestinien, lauréat du prix du jury en 2002, a été à nouveau couronné d'un prix spécial samedi soir lors de la cérémonie de clôture de la 70e édition du festival pour sa comédie dramatique dans laquelle il joue également. Il est même l'un des personnages ou le personnage central. Il a reçu des mains de l'actrice française Chiara Mastroianni. Que vous dire sur ce film? Tout ce qu'on a pu en lire est pratiquement dithyrambique sur cet humour, ce film qui s'appelle l'humour de ce film, qui est à la fois plein d'humour, mais aussi dramatique. Le film s'appelle « It must be heaven », cela devrait être le paradis. Elia Suleiman tient également le premier rôle. Le cinéaste avait été couronné du prix du jury pour « Intervention divine » en 2002 et avait été membre du jury du festival en 2006. Ce film pose une question fondamentale sur l'identité et l'exil, encore comme Mahmoud Darwish, que le réalisateur a déjà exploré dans ses films précédents. Où peut-on se sentir chez soi ? Dans cette nouvelle comédie dramatique, un Palestinien quitte son village, voyage en France, aux États-Unis. Pourtant, rien n'efface le souvenir de sa patrie qui semble le suivre comme une ombre, souvent de la manière la plus burlesque qui soit. Le film du réalisateur natif de Nazareth est absurde et drôle, mais aussi violent. Il se déroule quasiment sans parole et presque sans musique. La date de sortie du film n'est pas encore connue. Alors, notre critique qui dit « Présenter en compétition le film du réalisateur palestinien absurde, burlesque, violent aussi, se déroule quasiment sans parole. Chapeau sur le crâne, Elia Suleiman jette un œil sur son jardin depuis son balcon. Pointe juste le bout de son nez, observe son voisin qui est en train de lui voler ses citrons. » Elia Suleiman a son habitude. Le réalisateur palestinien joue son propre rôle, ne bronche pas, ne prononce pas un mot, disparaît aussi rapidement qu'il surgit. On se croirait dans un sketch des Deschiens ou un dessin animé dont il est le héros. Donc, attendez la sortie de ce film, It Must Be Heaven, qui est le titre en anglais. Le titre français sera peut-être changé, mais nous vous tiendrons informés de la sortie du film en salle. Nous espérons qu'il y aura des salles et un distributeur courageux qui prendront le risque de diffuser Elia Suleiman en France prochainement. Peut-être encore une pause musicale et on va parler ensuite du bouquin de Shlomo Sand qui change de style après des livres historiques. Il passe au roman policier et c'est une véritable réussite là encore. Donc on va en parler après cette pause musicale.
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام
88.4 Radio Galère, une heure en Palestine et animée aujourd'hui par BDS Marseille. Mais avant de passer, comme annoncé, à la mort du Khazar Rouge, ce livre, ce roman policier de Shlomo Sand, une confidence. Nous avons aujourd'hui enregistré un petit peu à l'avance cette émission pour des raisons de disponibilité. Et nous sommes donc mardi, il est 13h. Et un gros coup de colère, un vrai coup de colère. À 7h, un cargo saoudien doit rentrer, il est peut-être en train de rentrer actuellement, dans le port de Marseille-Fos pour y charger des munitions qui sont destinées au canon français, vendu canon César, me semble-t-il, Kaiser, si on le prononce à la romaine, qui sont utilisés à la frontière du Yémen pour massacrer des populations civiles yéménites. La guerre du Yémen est une véritable boucherie menée par l'Arabie Saoudite et son despote Ben Salman, allié de l'État d'Israël, allié des États-Unis. Le gouvernement français, nous dit l'association Disclose qui a publié un rapport sur les ventes d'armes françaises au Yémen, le gouvernement français n'entend pas renoncer à ses livraisons d'armes en direction de l'Arabie Saoudite. Pourtant, un pays comme le nôtre doit-il livrer des armes ? Peut-il se contenter d'avoir comme principale exportation des engins de mort, en particulier lorsque cela s'adresse à des pays en guerre, à des pays qui massacrent des civils? Alors qu'un cargo de la société saoudienne Bahri a été empêché de charger 8 camions Kaiser au port du Havre début mai, Disclose révèle qu'un nouveau chargement d'armes doit avoir lieu en toute discrétion ce mardi 28 mai. Cette fois, c'est le port de Fos-sur-Mer qui reçoit la visite d'un cargo battant pavillon saoudien. Le Bahri Tabouk doit entrer en rade dans l'après-midi dans le secteur de la Darse 3, selon la capitainerie du Grand Port Maritime de Marseille. Selon les informations recueillies par Disclose, des munitions pour les canons Kaiser français devraient y être chargées. Destination finale, le port de Jeddah, en Arabie Saoudite. Fabriqué par la société Eurenco, filiale de l'entreprise d'armement Nexter, ces munitions sont en fait des charges modulaires BMC-TCM produites par les usines de Bergerac en Dordogne. Ces charges explosives sont indispensables à la propulsion des obus de 155 mm tirés par les canons Kaiser de l'armée saoudienne accusés de crimes de guerre au Yémen. Alors, face à cette violation de l'humanité, je ne sais pas s'il y a des lois qui interdisent la vente d'armes en temps de conflit, mais face à cette violation de l'humanité, alors que nous voyons quasiment sur les réseaux sociaux tous les jours des images d'enfants yéménites en train de mourir, des enfants décharnés, victimes de la guerre, victimes civiles de la guerre, nous appelons tous ceux qui sur le port sont chargés de transporter ces armes sur les bateaux, tous ceux qui peuvent empêcher le chargement de ce bateau, de ne pas le faire et même d'interdire l'entrée du port à cet engin de mort, à ce cargo de la mort qui va transporter de quoi tuer les civils, les enfants yéménites. Nous souhaitons que notre ville Marseille s'illustre, comme l'a fait la ville du Havre, en s'opposant même à l'entrée du port de cet engin, ce bateau de la mort. Et nous espérons, dans une prochaine émission, pouvoir vous dire que cela fut une grande victoire de la solidarité internationale, de la résistance internationale à l'oppression des peuples. On continue avec ce magnifique bouquin de Shlomo Sand, un bouquin complexe où toute la subtilité de l'écrivain est de marier une histoire policière dense, subtile, avec des faits historiques. Voilà ce qui est écrit dans la presse. En écrivant un polar mêlant l'histoire et intrigue criminelle, l'historien Shlomo Sand, professeur à l'université de Tel Aviv, fait œuvre de vulgarisation. En passant à la fiction, Sand résume ses recherches et analyses qu'il avait brillamment développées dans « Comment le peuple juif fut inventé ». En écrivant ce polar, l'historien Shlomo Sand, professeur à l'université de Tel Aviv, fait œuvre de vulgarisation. Ce que je vous ai lu avant, c'était le titre. Donc là, on rentre dans le cœur de l'article. En passant par la fiction, il résume ses recherches et analyses qu'il avait brillamment développées, donc dans « Comment le peuple juif fut inventé ». Le polar a toujours été prisé par les auteurs gauchistes. Sand réussit admirablement en mêlant histoire et intrigue criminelle. Ainsi, si vous désirez apprendre où en sont les découvertes époustouflantes sur l'histoire des Juifs, le roman « La mort du Khazar rouge » en est une approche palpitante. Il s'appuie d'une part sur les écrits d'Ernest Renan, Marc Bloch, Arthur Kotzler et les travaux d'historiens comme Sand lui-même, pour étayer sa thèse selon laquelle la diaspora juive, j'ajoute européenne, qui n'est pas inscrit dans le communiqué, serait le fruit de conversions successives et que les Juifs n'ont jamais été chassés de Palestine il y a 2000 ans. La diaspora juive à propos des Khazars, bien évidemment. Les Ashkénazes seraient en partie descendants de Khazars convertis. Le livre révèle également quantité de faits avérés, souvent ignorés du grand public, que ce soit les lois israéliennes, l'assassinat de personnalités sur le territoire français, etc., etc. Le thriller met en scène à la fois les agissements du Shabak, le service de sécurité intérieure israélien, et les mœurs des universitaires, qui ne sont pas différents, quel que soit le pays. La fiction donc, nourrie par un travail à la fois historique et sociologique, a le mérite de nous tenir en haleine tout au long des 384 pages de ce polar fondamentalement politique. Une très belle critique, plus qu'une critique, une très belle recension est faite dans le... En tout cas, je l'ai trouvée sur le net. La chronique du livre est faite par 404. 4 100san4.com et plusieurs rubriques en particulier. Ça commence comme ça. Qui a tué l'éminent professeur d'histoire Yitzhak Litvak de l'université de Tel Aviv? C'est la question à laquelle tente de répondre le commissaire Émile Morcus, un des rares hauts gradés arabes de la police israélienne. Mais quelle piste suivre? Célibataire sans enfant, Litvak semble vivre seul, surtout préoccupé de l'avancée de ses travaux. Était-ce une mauvaise rencontre, un étudiant voulant se venger d'un échec quelconque ou celle d'un règlement de compte entre ces universitaires qui, comme dans toutes les universités du monde, se détestent cordialement? L'affaire prend une toute autre tournure car quand le frère jumeau de Litvak est à son tour assassiné et que certains services israéliens travaillent ostensiblement à étouffer l'affaire. Alors, que se passe-t-il à la suite? Non seulement le frère jumeau Abraham est assassiné, mais sur l'université, des groupes dits gauchistes sont surveillés par les services israéliens, en particulier un agent du Shabak, le service secret chargé des basses œuvres du régime, infiltre et manipule les étudiants militants de la gauche israélienne sur le campus. Il amène avec lui la trahison et le mensonge, un poison qui va lentement se diffuser, ce qui va compliquer encore un peu plus le dossier. L'assassinat d'une jeune membre d'un des groupes les plus radicaux, dans des circonstances horribles, entraîne Marcus et son adjoint, Ohayon, sur des pistes qui deviennent dangereuses et les font se heurter aux pressions et leurs des services officiels. Paranoïa partout, suspicion généralisée de différentes agences de renseignement et la police ne coopère pas. Le terreau idéal pour que fleurisse un tueur en série protégé par l'institution. Si j'ai encore un peu de temps, je voudrais vous lire un petit passage. Un tout petit passage. Qui parle d'un voyage fait à Paris par cet agent du Shin Bet, du Shabak, de la branche juive du Shabak, qui s'appelle Yari.